une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étante et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant
« Regardez bien, ma sœur, et ça cesse, dites-moi, n'y suis-je point encore ?»«
Nenni. »«
M'y voici donc ?»«
Point du tout. »
M'y voilà !»«
Vous n'en approchez point. » La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages. Tout bourgeois veut bâtir comme les grands seigneurs. Tout petit prince a des ambassadeurs. Tout marquis veut avoir des pages.
Bienvenue, chers auditeurs. Et pas la peine de me faire ces têtes innocentes. Je sais très bien ce que vous avez pensé en lisant le sujet de l'émission. Honte à vous ! Les yeux ont des oreilles chastes, littéraires et sérieuses. Le fait que l'œil soit un symbole d'une certaine partie de l'anatomie masculine et l'oreille un des nombreux termes désignant une certaine partie de l'anatomie féminine ne cautionne en aucun cas les dérives langagières de notre société viciée. Donc posez vos mains bien à plat sur la table parce que cette 9e émission est dédiée principalement aux formes littéraires courtes, par essence ou par choix individuel, qui nous permettront d'explorer à quel point ce n'est pas la taille qui compte. C'est ce qu'on fait avec. Comme vous le disait la virgule d'ouverture chantée par Youssou N'Dour, tirée du très beau film Kirikou et la sorcière de Michel Oslo. Le grand Manitou, c'est toujours moi, Caroline, de plus en plus mégalomane d'émission en émission, et vous retrouvez les voix de mes petits lecteurs, Camille et Willem. Et bien sûr, le thème était une idée de Camille, hein, ça sent le coup de com'. Figaro, le crâne en papier mâché, nous tient compagnie, et pour lui donner un lien avec le thème du jour, je l'ai rempli avec des schtroumpfs, parce qu'ils sont petits et bleus. Et Haribo, c'est bon la vie, pour les grands et les petits. La dernière fois, nous avions un invité de marque, Thomas, et cette fois, c'est la présidente de Transistor elle-même, la grande Lola, qui nous fait l'honneur de sa présence. Sa douce voix et sa diction baroque théâtrale vous accueillent en incipit avec une fable d'un certain Jean de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse qu'un bœuf, pour vous mettre en garde contre l'ambition démesurée. À chacun sa place, à chacun sa taille. Et on arrête là la politique. Au programme du jour, grands monstres et petits obscurs, lecture très très brève, changement de taille, d'échelle, de perspective, et hélas, moult blagues douteuses, faut bien faire de l'audimat. Et parce que ne pas le faire eût été un affront au monde de la comédie, un petit extrait d'Anne-Sophie de la Coquillette, connue à la ville comme Florence Foresti, sur la démesure.
Oh non, vous exagérez, non, c'est juste que j'aime faire les choses en grand. Ah oui. Et c'est vrai, quand j'ai une envie pressante, par exemple, de faire une partie de petits chevaux, bon, ben, je loue l'hippodrome de Longchamp, c'est tout. Ah oui. Et on joue grandeur nature, on s'amuse. Mais les chevaux se font chier, en revanche.
Ah oui.
Ah ben oui, parce qu'ils avancent case par case, ils s'ennuient. Et oui, on joue grandeur nature. Vous imaginez la taille des dés? C'est énorme, on est obligé de les faire lâcher d'un hélicoptère à chaque fois. Ouais. Faut pas être dessous, j'ai perdu deux cousines comme ça dedans. C'est pas de bol, hein, c'est ballot de mourir écrasé par un double 6.
Alors, pour chaque émission, je cherche une question un peu bizarre pour tirer les vers du nez de mon équipe. Et cette fois, je suis pas peu fière de moi. Quelles unités utilisez-vous pour représenter l'argent? Bon, les chiffres, surtout pour nos autres littéraires, c'est bien abstrait. Il y a plusieurs années, un copain de mon frère comptait les petites sommes en Malabar et les grandes sommes en Ferrari. Bah oui, il avait 10 ans. Et du coup, moi, je trouvais ça super cool et je me suis mis à le faire aussi. Donc, ado, je comptais les sommes moyennes, genre autour de 20 à 50 euros, disons, en nombre de mangas que je pouvais acheter avec. Maintenant que j'ai un peu vieilli, les petites sommes, je les compte en café du distributeur, 40 centimes. Et les grandes sommes, probablement avec mon salaire. Au-delà, je ne peux pas penser. Enfin,
la prétention.
Voilà, c'est
avec
tout.
Ma Ferrari. Mon petit salaire.
Ok, Camille.
Alors moi, les grandes sommes, je les compte en billets d'avion et en billets de train. Genre avec cet argent, où est-ce que je pourrais aller? Ça marche bien avec les fringues, ça te dissuade d'acheter beaucoup de choses. Et les petites sommes, je pense que je les compte en caddie de supermarché. Combien de caddies ça fait? Vu qu'un caddie, c'est 1 euro. C'est pas mal.
Ah, je pensais à un caddie rempli de supermarché.
Non, un caddie vide.
Ah merde, oui, moi aussi.
Parce que caddie familial de supermarché, genre, ça peut monter jusqu'à 200 euros. Hein.
Pas mal. Ouais, alors les petites sommes, je les compte en lingots d'or.
Et les grandes. En pétrole.
Les grandes en Taj Mahal.
Donc oui, tu comptes en Taj Mahal, toi?
Non, non. Moi, pour les petites sommes, alors ça va faire de l'audimat. Pour les petites sommes, je compte en penny. sachant qu'un penny est approximativement égal à 0,0125 euros. Et pour les grandes sommes, je compte en Pléiade, c'est-à-dire ce que je ne pourrais jamais m'acheter avec. Et je tiens à informer l'auditeur d'une information très intéressante. Le prix moyen d'un œuf en France est de 26 centimes.
Bah oui, c'est important. Et Lola ?
Alors moi, c'est très prosaïque. Je compte en robe. Il y a des robes de différentes, on va dire, de différents coûts. Donc il y a des robes moins chères, des robes plus chères, des robes que je chine, des robes que je ne chine pas, des robes de gala qui coûtent très cher. Et donc ça fait en fait petite comme grande somme, c'est que les robes.
Dommage qu'on soit à la radio. Hein.
Ouais. Quoi ?
Robin, t'as des unités de comptage ?
Oui, alors moi, je vais pas vous raconter ma vie, mais en fait, cette année, je suis à la fois chômeur et vacataire à l'université. Donc les grandes sommes, je les compte en mois de chômage. C'est-à-dire les choses que je ne pourrais pas acheter avec mon chômage. Et les petites sommes, je les compte en heures de vacation, parce que c'est pas très très bien payé.
Faut qu'on pleure pour toi ou qu'on soit content là.
Non mais je suis absolument bénévole à Transistor, je ne suis pas payé. Transistor, c'est zéro heure de vacation.
En guise de préliminaire, Will vous a juste apposé trois exemples de formes d'écriture courtes, alors je vous présente rapidement des gens très importants de la forme brève. Bien sûr, vous n'en aviez jamais entendu parler, et nous non plus avant cette émission, mais chut, Botus et Mouche Cousue. Écoutez donc Augusto Monterroso, originaire du Guatemala avec une micro-nouvelle intitulée El Dinosaurio. Basho, grand poète de l'époque Edo, un des quatre maîtres du haïku dans la culture japonaise. Et la note 18, Choses qui font battre le cœur, écrite par Dame Sei Shonagon, dans Note de chevet, un des deux chefs-d'œuvre de l'époque Heian. Oui, je fais exprès de pas vous donner les dates, mais Heian vient avant Edo pour ceux que ça intéresse. Mon traducteur, c'est les gens de Wikipédia.
Quando despecto, el dinosaurio todavía estaba ahí. Quand il se réveilla, le dinosaure était encore là. Furuikeya, kawazu tobikomu, mizuno, oto. Dans la vieille mare, une grenouille saute, le bruit de l'eau. Choses qui font battre le cœur. Des moineaux qui nourrissent leurs petits, se coucher seuls dans une chambre délicieusement parfumée, s'apercevoir que son miroir de Chine est un peu terni, une nuit où l'on attend quelqu'un, tout à coup, on est surpris par le bruit de l'averse que le vent jette contre la maison.
Si c'était trois fois rien entre nous, évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout, ces petits riens qui me venaient de vous.
Merci Will, pour ces microns d'une densité qui laisse songeur. Pour info, les bulles de savon font quelques microns d'épaisseur. En virgule, Gainsbourg fait des maths. C'est pas mon domaine, mais il semble y avoir comme un défaut de logique. Normalement, en additionnant 0 avec 0... Enfin bon, c'est la licence poétique. Et après la nouvelle, voyons jusqu'où on peut réduire le théâtre. Souffle de Samuel Beckett, comme souvent traduit par lui-même, sinon il aurait probablement assassiné ce traducteur, lu par moi. Noir. 2. Faible éclairage sur un espace jonché de vagues détritus. Tenir 5 secondes. 3. Cri faible et bref. Et aussitôt, bruit d'inspiration, avec lente montée de l'éclairage atteignant ensemble leur maximum au bout de 10 secondes. Silence. Tenir 5 secondes. 4. Bruit d'expiration avec lente chute de l'éclairage atteignant ensemble leur minimum au bout de 10 secondes. Et aussitôt, cri comme avant. Silence. Tenir 5 secondes. 5. Noir. Détritus, éparpillement confus, rien debout. Cri. Bref, extrait d'un vagissement enregistré. Essentiel que les deux cris soient identiques. Celui qui, au commencement, lance le tandem souffle-lumière et celui qui l'arrête à la fin. Souffle. Enregistrement amplifié. Essentiel que les deux phases inspiration-expiration soient bien différenciées. Éclairage maximum, pas très fort. Si 0 égale obscurité et 10 égale la clarté, la navette est de 3 à 6 environ et retour.
Allez au lit.
Je précise que cette chiure de mouche, calibrée pour durer 25 secondes, a été vue par 85 millions de personnes lors de ses 1314 représentations, ce qui en ferait la pièce la plus vue de Beckett, dixit Wikipédia. Et chiure de mouche est une unité de taille homologuée par un jugement subjectif de ma part sur la qualité de la pièce. En virgule, la grande traversée de VRP, qui, comme Samuel, nous l'a fait courte et finit en queue de poisson bien sûr.
Dites donc, vous l'avez courte. La mémoire.
Suite des réjouissances, une forme courte par essence, le syllogisme, tirée de l'œuvre d'un mec pas vraiment réjoui. Émile Cioran est apparemment connu pour son travail philosophique, mais aussi pour avoir été chroniquement déprimé. Quand on écrit « De l'inconvénient d'être né » et « Syllogisme de l'amertume », de toute évidence, on nage pas dans les bisounours. Lecture de Camille.
Chez Cioran, la concision est souvent synonyme de dégoût de vivre et aussi dégoût d'écrire. Dans « Syllogisme de l'amertume », il dit « Satiété ». Je viens à l'instant de prononcer ce mot, et déjà je ne sais plus à propos de quoi, tant il s'applique à tout ce que je ressens et pense, à tout ce que j'aime et déteste, à la satiété elle-même. Plus loin, on trouve « Ce qui décide du degré d'achèvement d'une œuvre, ce n'est nullement une exigence d'art ou de vérité, c'est la fatigue, et plus encore, le dégoût. » Mais la concision vient aussi d'un refus de pousser l'expérience philosophique à son terme le plus entier, le refus de créer un système de pensée, le refus finalement de la pensée elle-même, comme il le dit, car tout malaise n'est qu'une expérience métaphysique avortée. Et finalement, pour Cioran, il s'agit avant tout de décrire dans la concision pour montrer un rejet de l'existence et même de l'écriture, puisque un livre est pour lui un suicide différé. Donc finalement, il s'agit de permettre à sa pensée de s'exprimer de manière parcellaire et discontinue, afin d'exprimer donc son scepticisme à l'égard de l'existence et des systèmes de philosophie. Il écrit « Frustration de l'aboutissement. Ne jamais s'évader du possible, se prélasser en éternel velléitaire, oublier de naître. » Il s'agit donc de refuser la clôture et en laissant toujours l'écriture en suspens, de tendre vers un absolu, qui est finalement la posture même de Cioran dans son écriture et dans sa vie. Toutefois, on peut avoir une distance légèrement ironique face à cette figure du philosophe sceptique, et noter que si Cioran se prévaut d'une certaine forme de silence et de retrait dans l'écriture, il est néanmoins un écrivain. Et finalement, l'écriture, même la plus brève, n'est pas le silence. Ainsi, il le reconnaît. « Bien qu'ayant juré de ne jamais pécher contre la sainte concision, je reste toujours complice des mots. Et si je suis séduit par le silence, je n'ose y entrer, je rôde seulement à sa périphérie. »
Merci Camille. Et c'était le générique de la série Minuscule pour vous remonter le moral. Vous pouvez en ce moment même admirer les aventures de la courageuse coccinelle sur grand écran et en 3D. Dans les escapades plus anciennes au royaume des petites fourmis animées, je vous conseille Mille et une pattes pour le fun familial et Z pour une fable marxiste hilarante avec Woody Allen dans le rôle du protagoniste. Côté littéraire, Bernard Werber a écrit Les fourmis en partie du point de vue de ces petits êtres à antennes. Assez paradoxal quand on sait que l'auteur a un énorme égo, bande de petits vicieux. Et hop, pour gagner en perspective, on sort du microscope et on passe en vue d'hélicoptère pour un voyage au pays des géants, imaginaire et littéraire. Rabelais, maître de la truculence et des descriptions longues comme des chapelets de saucisses, nous livre en 1534 « La vie trésorifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composé par monsieur Alcofribas, abstracteur de quintessence. Livre plein de pantagruelisme. » Pour faire court, Gargantua. Les chapitres 25 à 50 traitent de la guerre Picrocolline, un conflit né entre les sujets de Picrocol et de Grand Gousier, le papa de Gargantua, à propos d'une sombre histoire de galette. Bref, des méchants soldats pas beaux prennent d'assaut l'abbaye de Seuilly, où, au milieu des moines couards, se trouve le brave frère Jean, qui entreprend de transformer les 10 soldats en hachis parmentiers. C'est Willem qui régale.
Ce disant, il mit bas son grand habit et se saisit du bâton de la croix, qui était en cœur de cormier, long comme une lance, rond et bien en main, et quelque peu semé de fleurs de lys, toutes presque effacées. Il sortit de la sorte, dans sa belle casaque, mit son froc en écharpe et, avec son bâton de la croix, il frappa si soudainement les ennemis, qui vendangeaient à travers le clos sans ordre, sans enseigne, sans trompette ni tambour. En effet, ils avaient posé leurs portes drapeaux et leurs enseignes le long des murs. Les tambours avaient défoncé leurs caisses d'un côté pour les remplir de raisins, les trompettes étaient chargées de pampres, personne n'était plus à son rang. Il leur asséna donc de si rudes coups, sans crier gare, qu'il les renversait comme des porcs, en frappant à tort et à travers, à la manière des anciens escrimeurs. Aux uns, il écrabouillait la cervelle. Aux autres, il cassait bras et jambes. À d'autres, il démettait les vertèbres du cou. À d'autres, il disloquait les reins, faisait tomber le nez, pochait les yeux, fendait les mandibules, enfonçait les dents dans la gueule, défonçait les omoplates, meurtrissait les jambes, déboîtait les hanches, mettait les os des bras en pièces. Si l'un d'eux voulait aller se cacher au plus épais des cèpes, il lui froissait toute l'arête du dos et lui brisait les reins comme un chien. Si un autre voulait se sauver en fuyant, il lui faisait voler la tête en morceaux par la suture occipito-pariétale. Si un autre grimpait à un arbre, croyant y être en sûreté, avec son bâton, il l'empalait par le fondement. Si quelque vieille connaissance lui criait « Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends !»« Tu y es bien forcé, disait-il, mais en même temps, tu rendras ton âme à tous les diables !» Et soudain, il l'assommait d'un coup. Et si quelqu'un se trouvait suffisamment flambant de témérité pour vouloir lui résister en face, c'est alors qu'il montrait la force de ses muscles, car il lui transperçait la poitrine à travers le médiastin et le cœur. À d'autres, qu'il frappait au défaut des côtes, il retournait l'estomac et ils en mouraient sur le champ. À d'autres, il crevait si violemment le nombril qu'il leur en faisait sortir les tripes. À d'autres, il perçait le boyau du cul entre les couilles. croyez bien que c'était le plus horrible spectacle qu'on ait jamais vu. Les uns criaient « Sainte-Barbe !» Les autres « Saint-Georges !» Les autres « Sainte-Nitouche !» Les autres « Notre-Dame de Cunot, de Lorette, de Bonne-Nouvelle, de La Lenoux, de Rivière !» Les uns se vouaient à Saint-Jacques, les autres au Saint-Suaire de Chambéry. Mais il brûla 3 mois après, si bien qu'on n'en put sauver un seul brin. D'autres à Cadouin, d'autres à Saint-Jean-d'Angély, d'autres à Sainte-Eutrope-de-Sainte, à Saint-Cloud-de-Sinay, aux reliques de Javrezay et 1000 autres bons petits saints. Les uns mouraient sans parler, les autres parlaient sans mourir, les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Les autres criaient haute voix « Confession, confession, confiteor, miserere, in manus !» Le cri des blessés était si grand que le prieur de l'abbaye sortit avec tous ses moines. Quand ils aperçurent ces pauvres gens renversés de la sorte à travers la vigne et blessés à mort, ils en confessèrent quelques-uns. Mais tandis que les prêtres s'attardaient à confesser, les petits moinillons coururent au lieu où était frère Jean et lui demandèrent quelle aide ils voulaient qu'il lui apporte. Il leur répondit qu'il pouvait égorgeter ceux qui étaient tombés à terre. Laissant donc leur grande cape sur le pied de vigne le plus proche, ils commencèrent à égorgeter et achever ceux qu'il avait déjà blessés.
Merci Will. Non, hein, pas vraiment de lien entre le contenu du texte et la virgule. Le rapport est dans la forme, ou plutôt les formes. Hourra pour la beauté dans toutes ses dimensions avec Big Girl, You Are Beautiful, chanté par Mika et ses 25 kilos tout mouillés. Zoom à l'échelle humaine pour la lecture suivante de Camille. Et non, sans introduction, ce serait très bien. Quelques conseils percutants de Pierre-Louis dans son manuel de civilité pour les petites filles à l'usage des maisons d'éducation. Par contre, les petites filles feraient mieux de se boucher les oreilles.
Ne dites pas « quand j'aurai du poil au cul », dites « quand je serai grande ». Ne dites pas « j'ai 12 godemichés dans mon tiroir », dites « je ne m'ennuie jamais toute seule ». Ne dites pas « les romans honnêtes m'emmerdent », dites « je voudrais quelque chose d'intéressant à lire ». Ne dites pas « c'est la plus grande putain de la Terre », dites « c'est la meilleure fille du monde ». Ne dites pas « sa pine est trop grosse pour ma bouche », dites « je me sens bien petite quand je cause avec lui ». Évitez les comparaisons risquées. Ne dites pas « dur comme une pine, rond comme une couille, mouillé comme ma fente, salé comme du foutre, pas plus gros que mon petit bouton » et autres expressions qui ne sont pas admises par le dictionnaire de l'Académie.
Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.